Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Pour le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, c'est l'ensemble du secteur humanitaire qui se trouve à un tournant de son histoire. En cause, un article du Times début février à propos d'Oxfam. Le journal britannique a révélé que l'ONG avait dissimulé des comportements d'abus sexuels sur ses terrains d'intervention au Tchad et en Haïti. Accusation renforcée quelques jours plus tard par d'autres révélations, toujours à propos d'Oxfam, mais cette fois dans le cadre de missions au Soudan du Sud et au Libéria. Le scandale est d'une telle ampleur qu'il dépasse cette seule organisation. D'autres ONG, comme Médecins Sans Frontières, ont fait le choix, depuis, de publier les résultats d'enquêtes internes sur des cas de violence sexuelle. Plus largement, cette affaire pose la question de la façon dont travaillent les humanitaires dans des pays en crise. Si leur utilité n'est pas en cause, leur comportement pose parfois problème. Fin février, l'ambassadrice d'Haïti en France publiait ainsi une tribune dans le JDD pour dénoncer l'attitude de certaines ONG qui, je cite, « parce qu'elles injectent des millions d'euros chaque année dans un pays qu'elles considèrent comme leur propriété, se croient en droit de ne pas rendre des comptes. » Alors les humanitaires abusent-ils de leur pouvoir ? C'est autour de cette question que nous allons discuter ce soir et ce jusqu'à 19h en compagnie de trois invités, à commencer par vous, Vanessa Lamothe-Matignon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ambassadrice ou ambassadeur d'Haïti en France, je ne sais pas quel est le terme que vous préférez.
Ambassadeur, ça me va très bien.
Bon, et c'est donc vous qui avez signé cette tribune dans le journal du dimanche, le 25 février dernier, tribune intitulée « Haïti n'est pas la République des ONG ». Pour discuter avec vous, Françoise Boucher-Saulnier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice juridique de Médecins Sans Frontières et on vous doit un dictionnaire pratique du droit humanitaire dont la dernière édition remonte à 2013, si je suis bien renseigné.
Pour la version française.
Voilà, et ça a été publié aux éditions de La Découverte. Et puis troisième invité, Pierre Jacquemot, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, président du GRET, les professionnels du développement solidaire, qui est une ONG de développement. Vous avez par ailleurs été directeur du développement au ministère des Affaires étrangères français et ancien diplomate en poste en Afrique. Alors, avant que de parler de la dissimulation des faits par Oxfam, et puis on ne va pas parler que de ça, bien sûr, hein, l'idée de l'émission, c'est de réfléchir plus largement à ce que doit être le comportement des humanitaires sur le terrain et aussi quelles sont les relations qui doivent être nouées quand on est dans un cadre consacré au développement. Mais je voudrais d'abord revenir sur l'existence des faits qui ont été donc révélés par cet article du Times. Est-ce que vous avez été surpris les uns et les autres par l'existence de tels faits, Françoise Boucher-Saulnier ?
D'abord, non. Moi, nous, on n'est pas surpris parce que, je veux dire, la nature humaine fait que chaque fois qu'il y a pouvoir, il y a tendance à et tentation d'abuser. Donc, la seule chose qui nous surprend, c'est que des mesures de contrôle soient pas mises en place, notamment à l'intérieur des ONG. Et l'élément finalement le plus surprenant, c'est que l'audit qu'avait fait Oxfam n'est pas réussi à ébranler quelque part le fonctionnement interne de l'organisation. Donc ça, c'est un point vraiment important. Se surprendre qu'il y ait des êtres humains qui aient des comportements qui soient inappropriés, c'est vraiment naïf, puisque dans toutes les entreprises et partout, donc je trouve le concert de vertu, là, serait mal placé. Par contre, on doit être scandalisé par le fait que les organisations elles-mêmes n'auraient aucune procédure interne fiable pour les gérer, puisqu'elles interviennent souvent dans des environnements où on ne peut pas forcément compter sur un contrôle externe. Donc ça, c'est ça qui nous avait d'ailleurs conduit à effectivement rendre public nos propres chiffres, non pas sur le mode de la précipitation ou de la panique, puisque ce sont des chiffres qui existent et qui sont soumis dans nos assemblées générales tous les ans, ce sont des chiffres publics qui sont débattus par l'associatif de Médecins Sans Frontières.
Vanessa Lamothe-Matignon.
Alors moi j'irais dans le même sens que madame. Je trouve que ce qui est étonnant, c'est qu'une fois, c'est de ne pas tirer de conclusion des audits qui peuvent être effectués, et surtout une fois qu'on a connaissance des faits, de ne pas essayer de réagir, d'avertir les autorités, ou en tout cas d'avoir un comportement qui entraîne une remise en cause et donc une responsabilisation une responsabilisation. Des acteurs. Je suis d'accord, c'est vrai que dans toute société, dès lors qu'il y a pouvoir, il y a potentiel abus. Et je pense que le monde de l'humanitaire ne fait pas exception à ce constat.
Oui, parce qu'il faut préciser quand même que l'organisation Oxfam n'a pas découvert, alors ses dirigeants n'ont pas découvert ces actes d'abus sexuels ou de violences sexuelles. C'était des choses qui étaient documentées, disons, mais ça n'avait pas été pris en charge, ça n'avait pas été communiqué. Pas de prise en charge, c'est-à-dire pas de dispositif mis en place pour essayer de prévenir à l'avenir de tels comportements, mais pas non plus de communication auprès des autorités politiques des pays concernés, en l'occurrence Haïti.
Tout à fait. En l'occurrence, effectivement, les autorités haïtiennes n'ont pas été averties. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres pays, mais effectivement, il me semble que c'est un dysfonctionnement notoire que de ne pas dénoncer, de ne pas responsabiliser les auteurs de ces actes dès lors qu'on a connaissance de leur existence.
Pas de surprise s'agissant des actes qui sont dénoncés, ce qui ne veut pas dire évidemment que ça les justifie, hein, bien entendu, Pierre Jacquemot, mais le vrai problème, c'est le dysfonctionnement dans le fait de n'en avoir rien fait ensuite.
Écoutez, je pense qu'il faut un peu relativiser les choses. C'est inacceptable ce qui s'est passé. Il n'est pas question d'accepter que des humanitaires qui viennent pour apaiser la souffrance de gens dans les situations extrêmement graves, de fragilité, de vulnérabilité, ça donne de telles pratiques. Mais il faut ajouter d'abord que c'est très minoritaire. Moi, dans les organisations que je connais, qui sont les organisations de développement, on n'a jamais eu de cas de ce type. Ça ne veut pas dire qu'on est beaucoup plus vertueux que les autres. Mais ce que je veux dire, il faut d'abord rappeler que énormément d'humanitaires français ou occidentaux interviennent dans des pays, dans des circonstances parfois extrêmement dures. MSF a été victime de bombardements, des prises d'otages. Il faut rappeler aussi les conditions de travail, ce qui n'excuse rien sur ces comportements. Mais il faut un peu relativiser les choses. Et quand j'entends ou que je lis dans une certaine presse que nous sommes les brancardiers de l'impérialisme français ou européen, c'est des choses que je trouve particulièrement choquantes. Donc autant j'adhère sur la nécessité d'avoir des codes de conduite, de s'y tenir, d'avoir des sanctions, d'autoriser, enfin de prévenir les autorités nationales et de soumettre à la justice nationale, bien évidemment, les actes. Autant je fais attention. J'ai été ambassadeur dans des pays où il y a des forces des Nations Unies, des casques bleus. On a dénoncé des manquements graves à des droits de l'homme en RDC ou en Centrafrique. C'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause le dispositif international des casques bleus et des interventions humanitaires des Nations Unies.
Oui, parce que cette affaire n'est pas totalement inédite, hein, loin de là. Il y avait, on a retrouvé pour préparer l'émission un article du Monde en 2002 intitulé « Sexe contre nourriture » qui était une affaire qui avait fait l'objet d'une commission d'enquête par le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, avec des témoignages de réfugiés au Liberia, en Guinée, en Sierra Leone, où c'était des cas d'exploitation sexuelle par des employés d'agences humanitaires. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que parce qu'il y a ces cas-là, ça dénaturerait complètement et ça jouerait complètement contre l'ensemble des ONG, mais sur le caractère minoritaire, Françoise Boucher-Saulnier, ça pose aussi la question de savoir si les ONG sont en mesure aussi de recenser des faits quand il y en a, c'est-à-dire offre les outils et à leur personnel et aussi aux populations locales de le dénoncer.
Je pense que c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, parce que sur le côté majoritaire, minoritaire, bien sûr que ce n'est pas, et là effectivement il faut le signaler, je veux dire, ce n'est pas l'intégralité des gens qui font des secours qui devraient tout d'un coup être transformés en horribles abuseurs, et tout d'un coup il y a une espèce de réaction vraiment très dangereuse de l'opinion publique qu'on peut aussi estimer être un peu instrumentalisée, tout d'un coup de totalement discréditer l'intégralité de dispositifs qui permettent quand même la survie de populations à beaucoup d'endroits et qui impliquent des gens qui s'engagent et qui prennent des risques énormes. Ça, c'est un premier point. Mais moi, je pense que le débat sur les chiffres ou le côté minoritaire, pas minoritaire, de fait, il revient à être un débat moraliste. Aujourd'hui, la question, et vous avez raison de rappeler cette question de 2002, hein, le scandale sur l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, c'était les casques bleus et des humanitaires qui étaient impliqués. Oui. Ça a été vraiment un premier coup de semonce. Et pour Médecins Sans Frontières, ça a été le moment où on a décidé de se doter d'un système d'alerte interne. Parce que même si c'est pas beaucoup, c'est toujours trop. Et que l'enjeu finalement, c'est est-ce que les organisations humanitaires mettent en place un système, une culture, mais pas seulement une culture, des procédures internes qui font passer le message très clairement que les comportements abusifs doivent être reportés à la hiérarchie. Et également doivent être portés en dehors de la hiérarchie, c'est-à-dire par des canaux alternatifs, pour que l'organisation soit capable d'avoir des chiffres. Donc MSF, depuis 2002, on a mis cette chose en place, on est capable d'avoir des chiffres. Sur 44 000 employés dans le monde, nous avons cette année 150 alertes professionnelles dans lesquelles autour de 40 étaient fondées. Ce qui veut dire qu'il y a 2/3 d'alertes qui sont des alertes finalement qui ne reportent pas sur des choses graves, ce qui est très bien, mais on voit que c'est pas gigantesque. Mais si on est capable d'avoir ces chiffres et de les donner, ça veut dire qu'on a un dispositif interne.
Mais
si on
n'est
pas capable...
Une fois que la hiérarchie a ces informations, Françoise Boucher-Saulnier, qu'est-ce qu'elle en fait ? C'est-à-dire, est-ce que quand ce sont des actes qui sont commis sur des terrains d'intervention, est-ce que l'information, elle est également diffusée aux autorités locales ?
Alors, c'est là que c'est important, parce que d'abord, nous, ce sont des actes de très très large. Hein. On ne parle pas de criminels la plupart du temps. Ce sont des comportements...
C'est vrai, dans les faits qui sont recensés, hein, ça va du harcèlement jusqu'au
absolument,
viol.
Absolument.
Ce qui sont
avec
pas
des propos,
des faits de même nature.
Hein. Y compris des propos sexistes. Et sur les 40 cas à peu près avérés, on a la moitié qui concerne des éléments de nature sexuelle. Le reste étant de l'abus de pouvoir, d'abus de biens sociaux, etc. Bon. Sur ces cas-là, nous avons fait une investigation interne. Donc sur la totalité, on fait des investigations internes avec une cellule et des cellules qui sont en charge uniquement de ça, de l'audit interne, en dehors de la voie hiérarchique, c'est-à-dire en dehors de toute pression de l'organisation. Et puis, il faut le dire clairement, la seule chose que les organisations peuvent faire, c'est des sanctions disciplinaires, c'est-à-dire on peut licencier. Maintenant, on dit toujours, et comme on autorise et qu'on informe les victimes qu'elles peuvent informer, mais qu'on leur garantira la confidentialité, parce que sinon ils ont peur d'informer, on dit toujours aux victimes, si vous voulez porter plainte, c'est pas à MSF, hein, la plainte c'est à l'extérieur. Et on soutient les victimes qui veulent porter plainte, c'est-à-dire qu'on donne les éléments, mais on ne passe pas outre la décision des victimes. Ça, c'est un point vraiment, vraiment, vraiment important à signaler, parce que la dénonciation à la police, ça existe pour des faits. Alors, pour des faits de crimes graves, il peut y avoir effectivement une obligation. On l'a fait quelquefois sur des mineurs, mais on est obligé aussi de rester quand même dans le cadre du droit. Hein. Et la plupart de ces actions ne relèvent pas de crimes constitués. Hein.
Sans aller jusqu'à ce terme de dénonciation, Vanessa Lamothe-Matignon, mais est-ce que ce que reproche justement le gouvernement haïtien à Oxfam, avec cette décision d'ailleurs de suspendre les activités de cette ONG pendant 2 mois dans le pays, est-ce que ça n'est pas justement de ne pas avoir alerté sur ces faits et de, je vais reprendre d'ailleurs les termes qui ont été utilisés dans cette affaire, de ne pas avoir pris la responsabilité morale et éthique d'informer les autorités?
Oui, c'est exactement ce que je disais pour rejoindre les propos de Madame Boucher-Saulnier. Et je voulais dire aussi à Monsieur Jacquemin, il ne s'agit pas ici de faire le procès de toutes les ONG. J'ai écrit cette tribune effectivement parce que j'ai trouvé choquant à la fois le scandale Oxfam et puis divers événements qui se sont produits et qui ont pour conséquence une sorte de négation de l'identité haïtienne. Et en l'occurrence sur ces propos, c'est ce que je pense. Je pense effectivement que en personne responsable, vous avez connaissance de faits, vous les portez à la connaissance de l'État haïtien et vous en tirez les conséquences. Et il s'agit d'une responsabilité morale, il s'agit d'un respect vis-à-vis des autorités du pays dans lequel les actes ont été commis.
Parce que le pays aurait pu, ayant ces informations, quoi alors, entamer des procédures judiciaires contre ces personnes-là.
C'est-à-dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Effectivement, si le pays aurait pu entamer naturellement en fonction du souhait des victimes, l'État ne va pas se substituer non plus. Aux victimes de ces actes-là. Mais c'est de donner la possibilité à ces victimes de s'exprimer. Et finalement, c'est ce qui n'a pas été possible dans le cas d'espèce. Et je pense effectivement que ne pas donner l'opportunité ni aux victimes ni à l'État de réagir, et finalement on découvre ça des années après parce qu'un journaliste a mené une enquête, ça paraît dommageable, en tout cas pour la souveraineté de l'État haïtien que je défends aujourd'hui. Voilà.
Pierre-Jacques Moët, est-ce qu'on peut pas dire en tout cas qu'Oxfam a commis une faute justement en n'alertant pas les autorités locales, en laissant peut-être peut-être aussi du coup des personnes se retrouver soit sur d'autres terrains, puisque manifestement, comme le ménage, disons, n'a pas été fait entièrement, certaines personnes se sont retrouvées sur d'autres missions, soit chez Oxfam, soit dans d'autres ONG. Il y a quand même au moins, pas seulement pour les autorités locales, mais aussi pour les autres ONG, la nécessité de s'informer les uns les autres sur de tels cas.
Oui, probablement. C'est pas à moi d'incriminer une organisation consoeur dont on connaît par ailleurs les activités formidables qui peuvent être menées. Mais il est sûr qu'il y a des informations qui doivent circuler entre nous lorsqu'on est au courant que l'un de nos collaborateurs a des comportements absolument inadmissibles, pour éviter de s'en renvoyer la patate chaude en quelque sorte. Mais ça se fait. Hein. Faut savoir qu'on a. On parle de créer un fichier mondial des intervenants dans humanitaire. Bon,
ça se fait pas tant que ça. Mais, c'est à en croire les propos du directeur général du CICR, hein, le Comité international de la Croix-Rouge, qui dit il est extrêmement important que le silence qui entourait ces questions ait été brisé. Oui. Lui, il laisse quand même entendre que, en gros, il y avait des choses qui se savaient, mais qu'on n'en parlait pas.
Mais est-ce que vous permettez que l'on insiste un peu sur un autre aspect évoqué par Madame l'ambassadeur dans sa tribune et qui me paraît au moins aussi important, si vous le permettez, qui est et qui fait référence au séisme de janvier 2010, lorsqu'il y a eu une quantité hallucinante d'organisations non gouvernementales, humanitaires, qui ont été parachutées en quelque sorte sur l'île qui était victime d'un séisme extrêmement violent, d'une rare violence, et effectivement... Vous laissez entendre, et vous avez parfaitement raison, puisque nous étions acteurs, nous, de terrain, avant et après, qui laisse entendre qu'il y avait une perte de contrôle totale de ce qui pouvait se passer, du fait que les ONG, en quelque sorte, s'auto-régulaient, s'auto-administraient, oubliant qu'il y avait des organisations de l'État sur place, en mesure de pouvoir émettre des souhaits, participer à l'organisation des interventions.
Et ça, est-ce que vous l'avez constaté, vous aussi?
Alors,
du coup,
oui, nous, on l'a constaté, parce que je vous donne un tout petit exemple. Il se trouve que mon organisation, le GRET, est présente à Haïti depuis pratiquement 40 ans, mais tout particulièrement dans le secteur de l'eau sur la ville de Port-au-Prince, la capitale, depuis 1994. Et on a monté tout un dispositif pour la moitié de la ville, dans le domaine de l'approvisionnement en eau, de l'accès à l'eau, des populations les plus pauvres. C'est le principe des bornes fontaines gérées par des comités de l'eau, comités avec un K, et de l'eau, D-L-O. Et l'eau est payante, est facturée, parce que l'eau est à un coût, il faut absolument assurer le recouvrement. Et lorsque les humanitaires sont arrivés, ils ont mis en place d'autres comités sur d'autres modèles d'approvisionnement en eau, des camions-citernes, et ont complètement bouleversé, sans tenir compte de la réalité des structures qu'on avait mis en place patiemment, qui avaient une reconnaissance dans les quartiers, qui étaient reconnues pour leur efficacité. Et ensuite, les humanitaires sont partis, nous ont laissés sur le terrain, et il a fallu que de nouveau on explique aux populations que l'eau a un coût, et qu'il a fallu remettre tout en place, tout le dispositif. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas assurer l'approvisionnement en eau des populations, c'est absolument indispensable, mais là, il y a deux modèles d'intervention qui s'entrechoquent, en quelque sorte, et qui rentrent en contradiction. C'est assez fréquent, on a le même problème en matière de reconstruction de logements après dans les quartiers qui ont été complètement ébranlés, bouleversés. Et nous, on fait de la reconstruction antisismique. C'est évidemment beaucoup plus long que du baraquement. Et là, on a des logiques qui sont assez difficiles et qui ne peuvent être arbitrées, j'en termine là-dessus pour aller dans le sens de ce que vous disiez, Madame l'ambassadeur, qui ne peuvent être arbitrées que par l'État.
Vous avez fait justement, vous aussi, Vanessa Lamothe-Matignon, ce constat de ces deux logiques qui sont pas toujours, comment dire, complémentaires, en tout cas qui peuvent s'opposer et qui posent des problèmes en termes de souveraineté de l'État, même si quand il y a un séisme comme celui qui a eu lieu à Haïti, on imagine aussi que ça a atteint le fonctionnement de l'État. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu autant d'humanitaires qui sont venus dans ce pays.
Tout à fait, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs... à l'époque, les organisations, les ONG ont été accueillies, et elles ont eu place nette sur le terrain pour opérer. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne s'y retrouve pas. Je dirais, le compte n'y est pas. À partir du moment où chaque organisation finit par faire son affaire dans son coin sans que l'État haïtien ne sache vraiment ce qui se passe, et l'opération sur le terrain n'est plus satisfaisante ni pour l'État ni pour la population. Et en ce qui concerne Haïti, aujourd'hui, on voit que ces organisations non gouvernementales n'ont pas permis le développement du tout, même des régions dans lesquelles elles sont intervenues. Mais ce scandale, finalement, aujourd'hui, Oxfam, il a été dénoncé à plusieurs reprises. Notamment, il y a eu un documentaire qui a été fait à l'époque par le réalisateur Raoul Peck qui s'appelle Assistance mortelle, justement pour dénoncer le fait que sur l'aide humanitaire, il y avait moins de 40% qui revenaient effectivement au pays. Donc ça pose le problème de l'efficacité de l'aide, et après ces humanitaires sur le terrain finalement ont des comportements qui reviennent à nier la souveraineté nationale en opérant en fonction de leurs propres priorités. Et aujourd'hui le gouvernement haïtien, l'État haïtien leur demande d'agir en fonction des priorités gouvernementales ou de ne pas agir du tout.
Mais ça, c'est lié à quoi ? Il peut y avoir une forme de condescendance dans cette façon d'agir, Françoise Boucher-Saulnié, ou bien est-ce que c'est d'abord lié au fait que, quand il y a, par exemple, un séisme, comme ça a eu lieu en Haïti il y a quelques années de ça, on est dans une situation d'urgence, MSF intervient dans des situations d'urgence, et quand on est dans ce genre d'urgence, on peut aussi parfois peut-être agir dans la précipitation. Est-ce qu'il compte avant tout, c'est de sauver des vies et c'est de permettre aux personnes d'avoir à nouveau accès à l'eau, à la nourriture, et qu'on se pose peut-être moins la question de savoir si ce que l'on fait correspond exactement à ce qui se fait d'habitude dans le pays et aux conséquences que ça peut avoir.
Je pense qu'il y a énormément de sujets là qu'on est en train de mélanger, qui sont des sujets absolument de fond, qui sont la souveraineté, le développement, l'urgence, et ensuite on arrive finalement à une espèce de responsabilité individuelle. Et c'est toujours étonnant de voir que finalement, alors là pour le coup, la faute, ceux qui seraient responsables du mal, et je pense ça, il faut y faire quand même un peu attention, seraient ceux qui finalement sont là pour souvent remplir les manques des autres. Et je trouve qu'un des éléments, alors et pareil, la possibilité de parler d'humanitaire, on voit bien qu'on est en train de mélanger d'ailleurs. On utilise cette espèce de mot facile pour ne pas ouvrir d'autres débats. Le débat urgence-développement, c'est un débat qui a quand même à peu près 60 ans. Hein, et puis le débat même développement, parce que si le développement avait été efficace, notamment en lien avec la souveraineté et les politiques des bailleurs de fonds, il y aurait peut-être moins d'urgence. Donc tout ça, il faut quand même que les auditeurs aient conscience, et que nous aussi, on ait conscience qu'on est en train de parler de débats politico-mondiaux gigantesques, qui sont un ensemble de faillites, et qu'il faudrait peut-être éviter d'en finir avec juste un système de bouc émissaire de ceux qui effectivement abusent de pouvoir. Mais surtout, alors là encore, je suis désolée, donc je refais quelque chose qui n'est pas correct. Je vais continuer à utiliser le mot d'humanitaire, mais vous voyez bien qu'on ne parle pas des mêmes choses. Mais les humanitaires, ils abusent surtout de l'absence du pouvoir. Hein, et en fait, leur première responsabilité, c'est souvent d'agir dans la vacance du pouvoir. Et dans certaines situations, d'agir, et là on ne parle pas d'Haïti, hein, il faut qu'on élargisse le débat, d'agir en plus dans des situations où le pouvoir lui-même, tout souverain qu'il soit, n'agit pas dans l'intérêt de son peuple. Donc je crois qu'il faut quand même refaire tous ces entonnoirs pour arriver à savoir de quoi on parle. Maintenant, sur le cas d'Haïti spécifiquement, donc vraiment se dire que les humanitaires, quand même, on leur demande des responsabilités, on leur demande à titre individuel ou d'une organisation, de prendre la responsabilité de la faillite générale de systèmes de souveraineté étatique, internationaux, et les bailleurs de fonds, dont on parle d'ailleurs très peu, qui sont très présents.
Mais quand vous dites qu'un État, par exemple, qui n'agit pas dans l'intérêt de son peuple, ça peut vouloir dire quoi, ça ? C'est-à-dire, dans quel...
Je prends la Syrie aujourd'hui. Ouais. Prenons les questions d'assistance humanitaire, parce que c'est de ça qu'on parle. Et là, il s'agit pas... Il n'y a pas que... On a l'impression qu'il y a le développement et l'urgence. La plupart des opérations humanitaires se passent en situation aussi de conflit, de gouvernements qui eux-mêmes ont mené leur peuple au bord de la faillite ou au-delà de la faillite, dans des guerres et dans des situations comme celle-là, dans lesquelles l'humanitaire se doit d'être indépendant. Et si je rappelle donc justement l'humanitaire dans ces situations-là, le droit humanitaire impose l'indépendance du secours par rapport à des pouvoirs qui eux-mêmes font partie du problème et pas que de la solution. C'est pour ça qu'il faut effectivement mettre des séquences et effectivement sortir plusieurs types de matrices du raisonnement, celle d'une urgence intervenant dans un une catastrophe naturelle, hein, intervenant dans un pays et qui effectivement une catastrophe naturelle intervenant dans un pays qui est lui-même dans un processus de développement va faire entrechoquer les régimes. Mais en Haïti. La question, c'est effectivement, les ONG sont enregistrées, la souveraineté de l'État existe autour de ça, et les programmes doivent être approuvés. On a, par contre, Haïti, et je souligne votre tribune qui est vraiment très intéressante pour ça, le cas d'Haïti est vraiment emblématique d'une négation de la souveraineté de l'État depuis les origines et d'un assistanat étatique, hein, et international, qui n'est pas que le fait des ONG d'urgence, soyons précis, qui est là pour, finalement, empêcher une pleine souveraineté d'un pays qui a des voisins puissants.
Donc, Haïti est un exemple de ce qui se fait, de ce qui pourrait peut-être être amélioré en, du point de vue, on va dire, à la fois de l'intervention d'urgence et puis aussi de l'aide au développement, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est exemplaire de ce que serait le comportement et le travail et des humanitaires et des agences de développement et des États en la matière. Pierre Jacquemot.
Oui. Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas, si vous le permettez, stigmatiser Haïti. On est dans des situations de grande fragilité ailleurs. C'est actuellement le cas au Sahel. C'est actuellement le cas à Madagascar ou dans d'autres régions du monde. Donc on rencontre ce même type de difficultés avec la même revendication des États de pouvoir maîtriser les paramètres des interventions, des opérateurs, tout comme des entreprises ou des ONG. Donc il y a la même revendication. La véritable question qui se pose, notamment pour les humanitaires, c'est la question à poser, c'est de savoir à qui on rend compte. Lorsque vous intervenez sur des dons issus de la générosité du pays du Nord, vous êtes un peu enclin à dire j'ai des comptes à rendre uniquement à celui qui, à mon bailleur de fonds, à mon donateur. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Et en général, on veut faire du chiffre combien de personnes bénéficiant de l'approvisionnement en eau, de soins de santé. Lorsque vous êtes dans une, alors c'est souvent le cas. Je dis pas que c'est toujours le cas. Et en plus, vous êtes dans les situations où, effectivement, l'État est d'une grande fragilité pour un certain nombre de raisons qu'on peut comprendre, liées, par exemple, au drame, à la catastrophe, ou à une guerre civile, ou à d'autres facteurs de ce type. Dans la logique du développement, on est quand même dans une approche qui est assez différente. On doit rendre de compte aux bénéficiaires ultimes, qui peuvent être des paysans, qui peuvent être des femmes, qui peuvent être des citoyens, qui peuvent être toutes sortes de publics bénéficiaires ultimes, puisque l'objectif, c'est de les responsabiliser, de se rendre et de pouvoir quitter sans être plus utile après une période de le temps du projet, si vous voulez. Donc on est dans des mécanismes qui sont quand même assez différents. Et on est obligé de passer par l'État. Alors, quand je dis l'État, c'est l'État central, mais c'est aussi les collectivités locales, c'est un certain nombre d'acteurs décentralisés. C'est là, d'ailleurs, un problème qui peut se poser dans certains cas où le système n'est pas suffisamment solide à la base dans ces collectivités locales. Le problème s'est posé, par exemple, à Haïti, ou se peut se poser dans d'autres pays, lorsque les mécanismes ne sont pas encore mis en place, les compétences ne sont pas encore en place pour assurer ce contrôle et puis recevoir cette redevabilité dont on est, qui est une obligation pour nous.
Nadessa Lamothe-Matignon, quand vous écrivez dans votre tribune, parce qu'elles injectent des millions d'euros chaque année dans un pays qu'elles considèrent comme leur propriété, elles se croient, alors les ONG, en droit de ne pas rendre des comptes. Est-ce que c'est d'abord autour du développement, justement, enfin c'est au développement que vous pensiez, davantage que justement à ces réponses en situation d'urgence? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le gouvernement haïtien n'a pas la pleine maîtrise des projets de développement qui sont développés sur son sol?
Alors, je ne pense pas à la situation d'urgence, parce qu'effectivement, tout à l'heure, on a évoqué le séisme qui était une situation d'une extrême gravité. Et effectivement, toutes les organisations qui sont venues secourir étaient les bienvenues. Après, effectivement, aujourd'hui, ce qui est choquant, c'est que 8 ans après le séisme, si vous regardez la presse début janvier de chaque année, aux alentours de la date anniversaire du séisme, on est toujours dans des commentaires sur la manière dont ce pays ne se développe pas, sur la manière dont il ne se passe rien, si vous voulez, il y a toujours des commentaires très négatifs, et alors que finalement la question c'est...
Mais la question, c'est de savoir si ces commentaires correspondent à la réalité ou
non,
pas.
Non, et bien justement, le point central que tout le monde se pose, c'est mais où est passé l'argent du séisme? où est passé, où sont passés les millions, les milliards, puisque qu'on vous a donné. Mais justement, c'est le mécanisme de l'aide, de l'aide dans ces cas-là qui passe à travers les organisations, les ONG, qui financent le train de vie aussi des ONG, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, vous envoyez des salariés sur le terrain, il faut les rémunérer, il faut voilà. Mais il faut comprendre aussi comment ça fonctionne. Et mon propos aussi, c'est de dire, il y a en septembre d'ailleurs. Le gouvernement haïtien a publié une liste de 250 ONG qu'elle a bannies du territoire haïtien.
Pour quelle raison ?
Parce que ce sont des organisations qui ne rendent pas compte, on ne sait pas ce qu'elles font. Vous savez, ce qui est drôle quand vous dites que vous êtes ambassadeur d'Haïti, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais alors je connais quelqu'un qui a une petite école qu'il a fondée dans tel village éloigné. » Et ça, eh bien, c'est inacceptable parce que fait cette école ? Sous la tutelle de qui elle travaille ? Est-ce qu'elle travaille avec le ministère de l'Éducation ? Et finalement, on vous renvoie à l'image que finalement vous êtes un pays qui n'est pas structuré et que quand vous êtes structuré, eh bien de toute façon, il y a quand même de la corruption. Donc ce qu'on renvoie comme image à Haïti, l'objet de ma tribune, c'est de dire stop. Il y a un pays, on a une souveraineté, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi en Haïti.
C'est aussi ce que vous critiquez, hein, vous Pierre Jacquemot, dans un article que vous avez publié sur le site de l'IRIS récemment, suite au comité interministériel qui a eu lieu, c'était le 8 février, comité interministériel pour la coopération et le développement. L'idée c'est de rénover la politique française de développement et vous concluez votre article en disant qu'il y a un jacobinisme technocratique bien ancré en France au détriment d'une coopération proche du terrain et qu'on a du mal à passer une logique d'intervention qui serait une logique de symétrie horizontale. On est encore dans quelque chose de très vertical et avec, comment dire, presque une forme d'esprit un peu colonialiste dans la façon d'envisager le développement aujourd'hui en France.
Cette critique porte surtout sur le dispositif français, hein, et ne porte pas du tout sur ce qu'on a évoqué tout de suite. L'histoire du dispositif de la coopération française, c'est l'histoire d'un système vertical qui se décide majoritairement depuis Paris au bénéfice d'une organisation qui est l'Agence française de développement, qui en partie s'auto-alimente pour produire sa doctrine d'intervention, et qui, contrairement aux dispositifs qu'on peut connaître tant chez les Britanniques que chez les Allemands, utilise très peu le biais des associations locales pour la mise en œuvre de ces opérations. C'est pour ça que je dénonce, et je suis bien placé pour en avoir été un acteur, donc un peu une autocritique, si vous voulez, une perception assez parisienne, technocratique des choses, contre lesquelles le président Macron visiblement veut mettre en cause, puisqu'il a annoncé une coopération beaucoup plus efficace, de proximité, le mot est important, avec des moyens accrus. Donc on peut espérer, ça a été annoncé à Ouagadougou fin novembre, on peut espérer qu'il va y avoir un certain nombre de changements dans les modalités d'intervention pour plus d'efficacité, plus de proximité. Mais bien évidemment, ça passe par le dialogue avec les partenaires locaux, dans toutes les circonstances. Alors évidemment, le dialogue doit être adapté en fonction des capacités locales à pouvoir exprimer ses besoins dans les situations, dans les pays extrêmement vulnérables. Je parlais des pays sahéliens, c'est actuellement les questions de sécurité qui priment. On peut, après les événements dramatiques de Ouagadougou de vendredi dernier, on y pense immédiatement. Donc il y a une priorisation qui peut être particulière, qui n'est pas nécessairement portée sur les questions de développement. Mais il est bien évident que c'est l'efficacité et la proximité ne peuvent se faire qu'en renforçant les capacités locales. J'ajoute une chose qui n'est pas connue des auditeurs, c'est que les ONG, moi je préside un collectif d'ONG françaises, nous sommes 1600 experts. Il y a 1300 de ces 1600 experts qui sont des experts nationaux des pays où nous travaillons. Des Haïtiens, des Malgaches, etc. Ce ne sont pas des coopérants, des assistants techniques comme autrefois. Donc c'est quand même très très différent comme modalité d'intervention que de mettre en branle des compétences qui sont des compétences locales.
Cette question des modalités d'intervention, Françoise Boucher-Saulnier, est-ce que c'est quelque chose qui justement fait l'objet d'une réflexion assez large au niveau des ONG, ou bien est-ce que c'est chacune d'entre elles qui se dote peut-être d'un comité de réflexion, comité d'éthique pour savoir comment agir sur le terrain?
Alors, il y a deux choses. Il y a l'action sur le mandat. Hein. Certaines organisations, pour aller du Comité international de la Croix-Rouge, ont un mandat international, donc on sait ce qu'on attend d'elles. D'autres ont des mandats, ils sont tous des bailleurs de fonds. Et puis, pour l'organisation Médecins sans frontières, on a défini un mode d'intervention, c'est-à-dire que on s'estime responsable de produire du secours médical dans des situations soit d'urgence médicale, soit d'épidémie et d'endémie sur lesquelles les pays n'ont pas les capacités d'intervenir, puisque et on se donne ces capacités sous couvert d'un financement exclusivement individuel et privé, pour échapper justement à tout ce débat sur, quelque part, le colonialisme et effectivement le néocolonialisme, c'est-à-dire faire la politique des bailleurs de fonds qui souvent sont quand même occidentaux. Donc ça, ce qui est important, c'est que chaque ONG définisse ce qu'elle met derrière le mot humanitaire. Hein, et chaque organisation et chaque bailleur de fonds définissent ce qui met derrière le mot humanitaire, parce que c'est un mot extrêmement dangereux aujourd'hui, qui sert quand même à cacher aussi des ambitions. On a eu des guerres humanitaires, donc ça, ce sont des ambitions impérialistes. Hein, donc il faut faire attention et que chacun se donne pour lui-même la responsabilité de définir ce qu'il se donne comme mission et comme responsabilité. Donc pour MSF, c'est à peu près clair. Et par rapport à ça, on se donne aussi, nous, la responsabilité, justement, non pas de dire « il se passera rien parce qu'on a des bonnes intentions », mais quand on a 45 000 employés dans le monde, évidemment, on se doute bien qu'il va se passer des choses qui doivent être arbitrées en interne, parce qu'on ne peut pas se dire les victimes porteront plainte devant au premier commissariat qu'elles trouveront. Donc on sait, nous, qu'on est face à des situations déstructurées, face à des gens aussi qui prennent des responsabilités qui ne sont pas normalement les leurs, je le disais, dans des pays où les États sont défaillants, où la communauté internationale est défaillante, où etc. On demande quand même à des humanitaires de prendre des responsabilités qui vont un peu au-delà de ce que normalement il faut. Donc il faut aussi que nous, en interne, on aide les gens à redéfinir à ne pas devenir fou, pour le dire simplement, dans tout, ou dépressif. Donc, on a ce dispositif qui fait remonter.
Je voudrais ça suppose d'être une organisation suffisamment bien structurée pour pouvoir mettre en place cette réflexion. Il y a beaucoup de petites ONG qui souvent sont mues par, évidemment, de très bonnes intentions, mais qui n'ont peut-être pas la réflexion suffisante pour faire ça.
Oui et non, parce que de nouveau, de quoi on parle quand on parle d'ONG? Est-ce que c'est l'association de quartier ou est-ce qu'on parle d'ONG de développement ou d'urgence qui traverse des frontières? Une ONG, ça a une responsabilité de toute façon vis-à-vis de son propre personnel. Il y a des associations représentatives du personnel pour éviter que mon chef ou quelqu'un d'autre me traite mal. Donc il faut qu'on emmène avec nous les obligations positives qui structurent des sociétés et pas qu'on emmène avec nous ce qui fait que dans les situations déstructurées, on aggrave la déstructuration. Le droit humanitaire est fait pour ça, les règles de comportement sont faites pour ça et nous on assume des responsabilités d'employeur. Je veux juste dire un mot parce que quand même sur le scandale Oxfam, on était sur le néocolonialisme. Nous, dans les cas qu'on remonte du terrain, on a un nombre significatif d'abus d'employés nationaux sur employés nationaux, pour sortir du cliché aussi, où c'est toujours l'expatrié qui abuse d'un national et où tous les crimes sont sexuels.
Vanessa Lamothe-Matignon.
Je voulais dire quand même que cette tribune n'était pas pour, on va dire, cracher sur les ONG en disant que toutes sont critiquables.
Non, bien au contraire. Il suffit de la lire pour se rendre compte que c'est pas du tout le cas.
Hein. Voilà, il y a quand même, je salue le travail des ONG, notamment Médecins sans frontières qui a une action particulière à la suite du cyclone Matthews. Donc il faut travailler dans un cadre précis. C'est à nous de le définir, mais il faut aussi nous laisser le définir. Voilà.
Pierre Jacquemot, peut-être pour conclure.
Oui, simplement aussi rappeler qu'il existe des structures de coordination, de concertation avec les autorités. Dans la plupart des pays où nous travaillons, il y a un comité ONG qui est l'interlocuteur de l'État d'accueil. Et du côté français, il y a quand même des structures de coordination, d'échange. Il faut rappeler le rôle important de Coordination Sud, qui est la structure fêtière de toutes les organisations de solidarité internationale française, et au travers desquelles passent beaucoup de messages, et notamment après l'affaire Oxfam, qui a alerté l'ensemble des organisations de façon à ce qu'elles puissent mettre en place des codes de bonne conduite et veiller au respect de ces codes de bonne conduite dans l'ensemble de nos interventions à l'étranger.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Vanessa Lamothe-Matignon, ambassadeur de la République d'Haïti en France. Pierre Jacquemot, vous êtes chercheur à l'IRIS et président du GRET, qui est une ONG de développement. Et Françoise Boucher-Saulnier de Médecins Sans Frontières, vous en êtes la directrice juridique. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur notre site franceculture.fr. À la page du Grain à Moudre, la réécouter et la télécharger d'ailleurs. N'hésitez pas également à nous écrire si vous avez des remarques ou des suggestions à nous faire.